explorer de nouveaux mondes étranges,
traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle.
Le temps d'un bivouac.
Après être parti pêcher, des sons fracassants de tempêtes et de mers déchaînées à bord d'un chalutier, il est allé chasser des variations de silence sous les aurores boréales dans les paysages floconneux du Groenland. Romain Delahaye, alias Molécule, est un musicien aventureux. Il compose ses albums de musique électronique à partir des sons qu'il capte dans des conditions extrêmes. C'est aussi dans ces conditions qu'il trouve l'inspiration puisqu'il compose ses morceaux sur place lors de ses voyages. Son album 60 43 Nord a été composé dans la cabine d'un chalutier sur une mer du Nord démonté et sous l'œil intrigué des pêcheurs à bord. Après cette première expérience, c'est au fond d'un fjord du Groenland, dans un village inuit de 80 habitants, qu'il a composé son album Moins 27 degrés 7. Molécule était venu nous raconter son travail de création musicale en milieu extrême en juillet 2018. Cet après-midi, nous vous proposons une rediffusion de cet entretien. Et en fin d'émission, nous nous intéresserons à un autre type de voyage, celui que peuvent faire les mots en passant d'une langue à l'autre. Le linguiste Jean Pruvot nous racontera l'histoire de ces mots baladeurs qui ont migré du français à l'anglais et vice-versa. Voilà pour le programme de cette émission préparée par Sophie Vaux et réalisée par Anne-Sophie Ladonne et Étienne Bertin, avec à la technique Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est impressionnant. 120, 130 km/h de vent, voire plus par rafale. Ouais, j'ai pas fait de musique aujourd'hui. Je peux pas, ça bouge trop. Ouais, on sent que c'est quand même des conditions difficiles pour tout le monde. Bah, je fais moins le malin là. Je fais moins le malin.
Nous étions en avril 2013, vous aviez, Romain Delahaye, embarqué sur un chalutier en mer du Nord. Le magazine Thalassa vous avait accompagné, c'est pour ça qu'on a cet enregistrement. Et on l'entend, Romain, sur ce chalutier, ça a un petit peu secoué.
Oui, ça a un petit peu secoué. Alors, je suis parti sur ce chalutier pour mettre en musique la tempête. Et c'est assez rigolo parce que les 15 premiers jours, il a fait très très beau. J'entendais que l'usine, c'est un bateau-usine, donc que l'activité de la pêche, le moteur. Et je commençais vraiment à me languir. Et c'est vrai que quand la mer s'est formée, a commencé à faire tanguer le bateau, le Joseph Roti, très exactement, je faisais moins le malin.
Ouais, vous faisiez moins le malin, mais en même temps, c'est ce que vous étiez venu chercher. Vous vouliez de la tempête, vous vouliez vous confronter à ce fracas. Pourquoi ?
C'est une bonne question. Il y a des ramifications lointaines. Il y avait aussi un désir un peu plus esthétique. J'ai toujours été fasciné par la mer. J'ai fait mes premières classes de voile dans des écoles de navigation en Bretagne. Et je me suis toujours demandé ce qu'il y avait derrière cette ligne d'horizon. J'ai mis en œuvre ce projet en étant convaincu que on serait inspiré complètement différemment. Mmh. Et justement de se poser la question de quel comment on fait de la musique dans ces conditions-là, ouais. Comment on s'adapte et comment on vit ça aussi en tant qu'homme. Hein. C'est à chaque fois des expériences humaines, ouais. Très particulières. Et y avait cette volonté qui était assez inconsciente à l'époque, mais de se confronter à quelque chose de plus fort que soi aussi, ouais. À la puissance des éléments.
Ouais. Il ne s'agissait pas uniquement d'enregistrer les sons, mais aussi de composer dans ces conditions extrêmes. Et ça doit pas être facile. Tout simplement, vous aviez pas le mal de mer à bord de ce bateau qui secouait pour composer.
On s'amarine. Hein. Au début, c'est pas évident. Donc j'avais une cabine sur ce navire. J'ai amené tout le matériel nécessaire à la constitution d'un home studio avec un ordinateur, des enceintes, des synthétiseurs, guitare, basse, des effets. et puis un arsenal de microphones. D'une part pour enregistrer les sons. Alors enregistrer les sons, c'est une manière de se connecter et de prendre connaissance à son environnement de manière très attentive, parce que l'écoute permet vraiment cette attention et cette connexion au contexte, et puis de mettre ça en musique avec mes instruments. Parfois les enregistrements appellent des notes, parfois c'est l'inverse. Voilà un peu le processus.
Ça a été facile de trouver un chalutier, parce que c'est un vrai chalutier de pêche, hein. Les gens qui étaient à bord étaient là pour pêcher des poissons, et alors vous faire admettre avec tout ce matériel, hein, plus de 200 kilos de matériel, on le comprend, hein, ça a l'air très compliqué, très sophistiqué, ce dont vous avez besoin pour faire de la musique. Ça a été facile de trouver le chalutier pour vous accueillir?
Alors facile, je dirais non, parce que c'est une entreprise qui m'a pris plus d'un an.
Ouais.
J'ai fait une sorte de casting de bateau.
Ah, c'est vous qui avez déjà essayé de repérer le bateau de vos rêves.
Et oui, tout à fait. J'avais deux conditions importantes. La première, c'était je voulais partir dans une région propice aux tempêtes.
Ouais.
Et la deuxième condition, c'est qu'il fallait que je parte suffisamment longtemps pour avoir le temps de créer entièrement un album in situ, puisque c'est une autre partie de mon dogme que je m'impose, qui est de rajouter aucune note revenue à terre pour le bateau, et puis revenu à Paris pour le Groenland récemment. Je suis tombé sur ce navire basé à Saint-Malo, de la compagnie des pêches de Saint-Malo. J'ai une maison de famille à Cancale, pas très loin, donc j'ai activé des réseaux, le réseau local qui m'a mis en contact avec l'armateur. Je me suis déplacé faire un entretien avec monsieur Soisson, le président de la compagnie des pêches, qui m'a dit bah, pourquoi pas, il faut que j'en parle au capitaine, et j'ai eu l'accord du capitaine et de l'armateur. J'avoue qu'aujourd'hui encore, hein, 5 ans après, je sais toujours pas vraiment pourquoi il a accepté. Je pense qu'il y avait une sorte de folie douce dans mon projet.
Ouais.
Et puis il s'est dit voilà, je vais permettre à ce jeune homme de réaliser son rêve, et je le remercie encore.
Alors sur place, hein, vous captez des sons, vous l'avez dit au début, il fait beau, alors vous captez des sons du bateau, comme le son mécanique du treuil par exemple, qui éveille déjà votre imaginaire.
Ça peut faire penser à des fantômes, à du vent, un train qui freine, c'est très évocateur. C'est des gros treuils qui remontent des câbles avec une tension extrême.
Alors les sons, hein, mécaniques déjà du bateau vous intéressaient. Ce n'est pas seulement la mer et le vent que vous étiez venu capter sur ce chalutier.
Alors à la base, j'ai une démarche un peu romantique, qui est vraiment de me confronter aux éléments. Et c'est vrai que sur ce navire, j'ai mis du temps à accepter aussi ce contexte très industriel,
ouais,
très mécanique. Le moteur, notamment, il y a un morceau qui est fait autour de ça qui s'appelle 8ZL40, qui est le numéro de référence du moteur de Joseph Roty. Le moteur, il commence le matin au départ quand on largue les amarres, et il ne s'arrête pas pendant 35 jours jusqu'à notre retour. Et puis, il est toujours sur la même fréquence, sur le même rythme. Il est à 117 BPM à peu près, toujours la même tonalité. C'est pas comme une voiture, il n'y a pas d'accélération ou de décélération, c'est l'inclinaison des pales qui fait avancer plus ou moins vite le bateau. Et c'est un son vraiment emblématique de cette aventure qu'on entend partout, sur tous mes enregistrements, même des enregistrements vraiment micro pointé à la proue du bateau, sur l'eau. Voilà, c'est un son qui prend le dessus sur beaucoup de choses. Et donc j'ai mis du temps à accepter aussi qu'il y aurait une dimension industrielle dans les sons et dans ce projet. Mais à la base, voilà, c'est vraiment rencontrer la mer. Et c'est le moment où la mer se révèle et les éléments parlent qu'elle prend le dessus. Hein. Déjà, elle pousse ses hommes au silence, puisqu'on ne peut plus pêcher dans ces conditions-là. Donc le bateau se met à la cape. Les hommes attendent que la tempête passe. Et moi, c'est le moment où je suis aux aguets avec mon micro, avec une cibi, un harnais de sécurité. Puis je me balade dans les cales, sur le pont. Parfois, j'ai pas l'autorisation du capitaine parce que c'est trop dangereux. Et voilà, j'emmagasine toute cette matière sonore et puis je la sculpte après dans mon studio.
Tempête force 12, mur d'eau de 15 mètres. Hein, vous le dites, les pêcheurs ne pêchent plus à ce moment-là. Et vous, par contre, vous pêchez vos sons harnachés avec cet équipement. Et évidemment, vous captez des moments de cette tempête et des sons sur la coque qui vous intéressent particulièrement.
C'est une coque métallique, donc tout résonne. On l'entend là, il y a pas mal de mer. Donc à chaque coup de déferlante, ça fait un espèce de tonnerre. C'est l'impact, il est terrifiant. Donc c'est un son qui évoque des choses.
Vous vous souvenez, là, quand vous entendez ces sons précisément, Romain Delahaye, vous vous souvenez des conditions, vous vous replongez dans cet univers du chalutier ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est avec plaisir. Hein. C'est des moments forts, parfois un peu anxieux, mais
c'est vrai qu'il y a quelque chose d'angoissant dans ces sons. Alors, je ne sais pas si sur place, c'est vécu comme quelque chose d'angoissant, cette coque qui résonne.
Quand on vit le moment présent avec l'intensité que ça demande, et la concentration aussi de la mission que j'ai d'enregistrer ces sons, de faire la musique, on passe un peu outre l'angoisse, je dirais. Mais c'est un contexte très oppressant. On est complètement isolé à près de 150 000 des côtes, c'est 200 km. Il y a le bateau, qui est un bateau de 90 mètres de long, se fait balader de toutes parts. Ouais, c'est des conditions complètement nouvelles pour moi. Voilà, on fait avec et on essaye du mieux qu'on peut, surtout.
Alors ça, c'est la matière brute. Hein. Vous allez ensuite la travailler pour en faire un morceau de musique électronique. En l'occurrence, je vous propose d'entendre quelques mesures de ce morceau 8ZL40. Sur celui-là, ce sont les bruits de moteur hein, que l'on entend, ce moteur très répétitif dont vous nous parliez tout à l'heure, Molécule. Vous avez composé tout ça sur le bateau, hein, sur le bateau même. C'est des conditions difficiles pour se concentrer, pour faire la part des choses entre ce qu'on entend dans le casque, ce qui sort des ordinateurs et ce qui est encore en train de se jouer pour de vrai autour de vous.
Oui, ça a été une expérience très sonore. Je suis revenu fatigué, les oreilles fatiguées, on en parlera un peu après, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu travailler autour du silence sur le projet à venir, un peu pour prendre le contre-pied de cette expérience qui était très intense. C'est évident que c'est pas facile de travailler dans ces conditions-là. J'ai aussi dans le processus créatif que je mets en place l'idée de travailler avec la contrainte, donc ça fait partie de cette manière de créer de la musique. De s'adapter, de faire avec et de rendre les contraintes aussi créatrices.
Alors qu'est-ce qu'ils en pensaient les pêcheurs et puis les membres de l'équipage? Un aperçu avec le capitaine Frédéric Quignot qui découvre donc son chalutier différemment.
Alors là, c'est pas mal. Ça me fait penser à au navire qui se réveille, qui se met en route et qui part. L'idée, il fallait la trouver. Et le rendu est super bon, quoi. Je suis vraiment étonné.
Alors, je ne sais pas s'il fait preuve d'ouverture pour les caméras de Thalassa, hein, le capitaine, mais il a l'air conquis par votre travail. Est-ce qu'à bord, tout le monde a compris ce que vous faisiez avec vos instruments, avec vos micros ?
Non, tout le monde n'a pas compris. Parce que tout le monde n'a pas cette culture musicale de musique électronique, mais tout le monde a compris la sincérité de la démarche. J'ai vécu pendant plus d'un mois avec eux à leur côté dans les mêmes conditions, sans traitement de faveur. Et c'est vrai qu'on se soude hein, dans ces conditions un peu dantesques. Il y a quelque chose de très fraternel entre les marins. Et donc voilà, j'étais une personne de l'équipage. Il y a certains qui étaient curieux, qui venaient au studio écouter. Il y a certains qui me donnaient des conseils en me disant « Est-ce que tu connais le local bar, qui est un endroit très particulier où il y a un son, tu devrais aller l'enregistrer ?» Ou alors un autre marin qui me disait d'aller dans le pic du bout d'avant, qui est cette petite pièce où j'aurai ces chocs de déferlante contre la coque. Voilà, il y a plein d'anecdotes après avec ces hommes qu'on n'entend pas sur le projet, mais qui sont, voilà, ils ont été très présents ils ont été très présents, très accueillants, et c'est un album où voilà, ils ont participé à cet album d'une manière très particulière, pas sonore mais humainement très forte.
Alors cette aventure vous a plu, hein, on l'entend, ça vous a donné envie de recommencer, alors un exercice de ce type, mais cette fois-ci, comme vous le disiez, peut-être plus à la recherche de silence, d'ambiance moins fracassante. Vous allez nous raconter vos aventures sonores et musicales au Groenland. Romain Delahaye, Molécule, compositeur de musique électro en conditions extrêmes, nous emmène dans ses aventures sonores, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Calé dans ma poche, soigne ta blessure, oublie les reproches. L'ouïr se rapproche, il n'y a plus de mur, ici sommeil un proche. Compte les pas, ne t'en fais pas, rien ne saura m'éloigner de toi. C'était hier, plus rien à faire, d'en haut nous verrons le cerfière. Ce sera tout bon, ce sera tout bon. Libre de nous plaire, libre de tout faire comme à la maison.
Dans ma poche, de Matelot sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Salut, quel but cette fois? Le désert de glace du Groenland. Aujourd'hui, 30 mai 1948, nous franchissons le cercle polaire. 66 degrés 33 minutes nord, 54 degrés ouest.
Nous étions en 1948, c'était la voix de Paul-Émile Victor, Romain Delahaye, dit Molécule, sur la scène électro. Est-ce que vous avez eu l'impression de partir sur les pas de ces grands explorateurs d'hier, tels Paul-Émile Victor, qui est allé dans les mêmes régions que vous d'ailleurs?
Alors j'ai appris de ces explorateurs plutôt à mon retour. Je tiens à chaque fois sur ces expériences à partir vraiment sans aucun préjugé, sans aucune presque information, pour me prendre en pleine figure, comme ça le contexte et l'environnement, même la culture inuit. Voilà, je suis vraiment parti sans aucune connaissance de manière très spontanée.
Ouais, très spontanée. Alors, on l'a dit, hein, après les tempêtes de la mer du Nord, vous vouliez du froid, vous vouliez du silence, vous vouliez du calme. Au départ, vous visiez l'Antarctique, côté pôle sud. Donc, finalement, vous avez atterri au Groenland, donc côté pôle Nord. Pourquoi ?
Eh ben, parce que les démarches pour l'Antarctique étaient compliquées sur le créneau défini entre deux tournées en janvier. Donc, c'était en janvier 2017, il y a un peu plus d'un an. Donc, il fallait que je parte à ce moment-là et j'avais pas l'assurance de partir sur une base scientifique en Antarctique. Et j'ai eu vent de cette maison. Il y avait l'électricité, une sorte de cabane de chasseurs au Groenland. Et voilà, j'ai pris...
Une maison à Tinitekilak.
Tout à fait.
J'ai bien prononcé. Tinitekilak. Ça se trouve donc au fond d'un fjord au Groenland, un petit village inuit de 80 habitants. Alors vous y allez, hein, vous avez quand même cette âme d'aventurier. Ça veut dire deux avions, deux hélicos, 8 heures en traîneau à chien, hein, pour arriver jusqu'à ce petit village. Et rien que le trajet en traîneau à chien, c'était déjà une aventure.
Ouais, c'est une aventure de rejoindre ce petit village complètement coupé du monde. Et puis surtout, il y a cette découverte du Groenland en arrivant en avion où on prend en pleine figure c'est cette blancheur, cette pureté, cette fragilité aussi. Il y a quelque chose de très touchant dans ces premières images quand je suis arrivé.
Ouais.
Et puis voilà, on se dit que ça va être le terrain de jeu. Pour plus d'un mois avec ces instruments. On espère que tout a tenu le choc parce que je pars à chaque fois avec vraiment beaucoup de matériel pour recréer ce studio in situ et une frayeur assez forte sur l'arrivée en traîneau en fin de journée. Quand je dis fin de journée, c'était le crépuscule, mais il devait être
13h30. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 13 heures de jour là-bas. Hein, donc on est vite.
Je suis arrivé le 26 janvier, donc en plein hiver, et il y avait 3 heures de jour, mais le crépuscule est très long là-bas, et surtout la banquise n'était pas sécurisée, donc n'était pas stable. Donc le traîneau, on est sur une couche de glace comme ça, uniforme, toute blanche, et puis on sent que le traîneau peut passer à travers. En dessous, il y a l'eau du fjord avec près de 1000 mètres de fond, ouais. Et donc avec des courants très très importants. Donc on se dit que il faut mieux pas passer à travers la glace. Et ouais, c'était un moment très anxieux et c'était le tout début, le premier jour. Donc ça a bien posé le décor.
Ouais, ça a bien posé le décor. Est-ce que c'était, voilà, on l'a compris, inquiétant au point de ne pas sortir les micros pour enregistrer? Ou est-ce que vous avez enregistré du son à ce moment-là quand même?
Non, à ce moment-là, j'ai pas enregistré de son. Quand c'est inquiétant comme ça, on se concentre, on a plus un instinct de survie.
Ouais. Ça vous a quand même inspiré un morceau, le premier de votre album -22°7. Le morceau s'intitule Aria et on entend hein, ces sons de...
On entend le craquement du traîneau là, effectivement qui glisse sur la glace. Puis on entend le chasseur après. Et puis les notes de musique, c'est cette première vision de ce petit village très hitchcockien, un peu...
On entend votre souffle haletant là. C'est tout ce que vous avez vécu sur ce traîneau, hein, le risque de s'enfoncer dans la glace.
Ouais, c'est l'aventure, c'est le mystère aussi de découvrir ces petites maisons très colorées comme ça dans la pénombre groenlandaise avec 300 chiens de traîneau qui hurlent, qui font des cris d'accueil, des corbeaux aussi. Il y a quelque chose d'assez sombre, de mystérieux.
Vous allez y passer 36 jours dans ce village. Quand vous arrivez, personne ne vous attend, hein, personne ne vous accueille.
Non. Tout le monde est au courant qu'un Français musicien vient, mais non, c'est les Inuits sont pas sont bienveillants et joueurs mais ils sont pas très démonstratifs.
On va évidemment parler de vos rencontres avec les Inuits hein, un peu plus tard dans l'émission. Restons sur les sons que vous avez captés. Ce sont des sons beaucoup plus doux, beaucoup plus calmes hein, que vous êtes allés enregistrer là-bas, en tout cas pour une part. Il y a des sons d'une délicatesse, par exemple les flocons de neige qui tombent sur la manche de votre doudoune.
Voilà, c'est un environnement, c'était l'idée hein, de prendre le contre-pied de ce voyage en mer. C'est des sons, on va vraiment dans le détail. L'idée de travailler sur le silence aussi, c'était la... qui peut paraître un peu paradoxal pour un musicien, c'est aussi cette volonté d'être à l'écoute des éléments au plus près, avec une attention extrême, et une manière aussi de s'écouter. Il y a un côté méditatif dans tout ça, dans la manière d'enregistrer, dans le postulat aussi d'enregistrer. C'est une manière presque de se dissoudre dans un paysage, de disparaître. Tellement on est transporté par la concentration de l'écoute, du détail, parce qu'il n'y a presque aucun son. J'ai fait pas mal d'enregistrements de silence qui seront présents notamment dans le livre là qui sort à la rentrée, sur la banquise, dans le fjord. Et à mon retour, j'ai fait un enregistrement dans la chambre anéchoïque à l'IRCAM pour comparer les signaux, et j'arrive à des choses presque semblables avec le même micro, les mêmes câbles.
Est-ce que vous nous autorisez en avant-première à diffuser deux de ces silences? On est à la radio. Alors à la radio, faut toujours faire attention parce que un silence qui dure trop longtemps, ils envoient des musiques de sécurité parce que la radio a horreur du silence et du blanc. Mais comme on est des risques tout, on va écouter, on va offrir à nos auditeurs deux silences que vous avez enregistrés. Le premier, c'est à la montagne, Ignertivit. C'est comme ça qu'on prononce.
Sans doute.
Vous ne m'aidez pas du tout. Ignertivit, je vous propose donc d'écouter ce silence que vous avez recueilli sur cette montagne. Le silence a un son, hein, finalement. On entend quelque chose quand on diffuse du silence, et tous les silences ne se ressemblent pas. En voici donc un deuxième, enregistré cette fois dans le fjord de Sermilik. Un silence plus humide. On le sent humide, ce silence. Vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous avez effectué ces enregistrements, molécules ?
Oui, tout à fait. Le premier, c'est en haut d'un mont. Il faisait très très froid là, à ce moment-là. Le souffle qu'on entend, c'est parce que je suis obligé de pousser les préamplis de l'enregistreur dans des mesures très importantes. Donc on garde ce souffle-là. Si on l'enlève, on n'entend pratiquement rien. Et le deuxième, le fjord de Sermelik, c'est au pied d'un iceberg. Donc l'eau est complètement sirupeuse, on entend ces petits gloupissements. Mais voilà, c'est vraiment dans le détail. Une fois de plus, là, les volumes sont poussés à bloc. C'est des choses qu'on entend à peine, hein, comme ça, par l'oreille, c'est au micro. Et là, il y a après un travail de sculpture de ces sons pour en tirer des notes, des harmonies. Voilà, les travailler complètement. Moi, j'ai pas une approche de musique concrète. C'est-à-dire que c'est vraiment ma démarche, c'est d'être à l'écoute et dans les enregistrements que je peux faire, de sculpter avec un equalizer, avec des fréquences, d'utiliser cette matière sonore et de la modifier complètement, de la mettre à l'envers, de la pitcher, de l'accélérer, de la ralentir. Donc souvent on la reconnaît même pas. Au final, dans la musique.
Vous allez nous raconter vos rencontres avec les Inuits et ce qu'elles vous ont inspiré également. Avec Molécule, le temps d'un bivouac prend des allures de club électro sur la banquise. Nous allons écouter l'un de vos morceaux, Scylla, de votre album 22.7 degrés. C'était Scylla, extrait de l'album Moins 22-7. Comme ça, j'aurais prononcé au moins une fois correctement le titre de cet album de Molécules, notre invité dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Un chant inuit pour poursuivre le récit de votre voyage Molécule au Groenland. Comment s'est passée la rencontre avec ces 80 habitants qu'on imagine relativement coupés du monde dans ce petit village de Tinitekilak?
Eh ben, il y a la barrière de la langue qu'on prend en pleine face, parce que c'est pas évident de communiquer que avec ses mains et des sourires. On fait des choses. C'était surtout sur le jeu. Il y avait une personne qui parlait un peu anglais, donc on a échangé un peu des idées sur des conseils d'aller à tel endroit. On partait, je dis on parce que je pars sur ce genre d'aventure souvent avec un vidéaste pour prendre et ramener plein d'images qui servent pour les clips vidéo, pour le travail scénique aussi, et puis aussi sur un projet en réalité virtuelle qu'on est en train de finaliser, qui sortira à la fin de l'année. Et donc on part en expédition avec des chasseurs sur le fjord, en traîneau, pour enregistrer de la matière sonore et découvrir, appréhender aussi cet environnement.
Ils ont compris ce que vous étiez venu chercher, ils ont su être de bons conseils pour trouver les ambiances sonores dont vous avez pu nourrir votre musique.
Alors, comprendre la démarche, c'est toujours un peu compliqué, surtout avec la barrière de la langue. J'ai fait une journée avec les enfants de l'école. Il y a une école avec un professeur, et on est allé avec eux enregistrer des sons du village. Et j'aime bien questionner les personnes comme ça sur la notion du son, qui est souvent une question qu'on se pose pas, ouais. De se dire quel est le son emblématique de ton village ou de ton environnement. Alors pour les uns, c'était les coups de fusil des chasseurs qui partaient chasser le phoque. D'autres, c'était tel chien ou tel chasseur, le langage qu'il a avec son attelage. Il y en a un, c'était le moteur du bateau de son oncle. Voilà, donc c'est aussi sensibiliser comme ça les gens et du rapport au son, à l'écoute. Je dirais que c'est un peu l'aspect militant de mon projet, s'il y en a un. Mm-hmm. Si on veut en trouver un, c'est d'essayer de remettre l'écoute un peu au centre des sens. On a tendance un peu dans nos sociétés là à mettre ça, à être perturbé toujours, la pollution sonore, à mettre ça de côté, et à travers ces projets j'essaye aussi de réhabiliter ce rapport à l'écoute, à l'attention de l'extérieur.
Et qu'est-ce que vous avez appris de leur mode de vie, de leur culture, que vous ne connaissiez pas? Parce que vous nous avez dit, je suis parti avec un regard assez naïf finalement, j'ai pas travaillé ce voyage avant d'y aller.
C'est une culture très différente, hein. C'est assez bouleversant de prendre comme ça en pleine figure une culture avec des valeurs, avec un rapport au monde complètement différent. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est leur capacité à vivre vraiment au moment présent. Ils se projettent pas du tout. Le demain, c'est déjà très très loin. Et puis, ils ont une connexion avec la nature. Dans l'activité, dans ce qu'ils peuvent faire, c'est dicté, hein, par la puissance des éléments et par les conditions dans lesquelles ils vivent, et du coup ils sont à l'écoute, ils arrivent à lire les éléments, la prévoir un peu la météo, le temps, la dangerosité, est-ce qu'on peut partir chasser, est-ce qu'on peut aller ici, est-ce qu'on pourra revenir. C'est un contexte très hostile. Ouais. On est presque amené à se poser la question de la présence humaine, hein, dans des régions comme ça. La théorie principale là-dessus, ça serait pour fuir les conflits qu'il y avait au Canada. C'était une manière de venir un peu au calme et de pas se faire embêter. Mais c'est des conditions terribles.
Alors ces conditions de vie, ce mode de vie, cet instinct de survie, ça vous a inspiré des morceaux? Lequel vous viendrait en tête?
Bah ça, je penserais à violence, un terme. Voilà, il y a quelque chose de très présent, très très sanguinolent aussi dans leur mode de vie. C'est une culture qui cache rien, donc on voit beaucoup d'animaux éventrés, beaucoup de sang sur cette neige pure, blanche, et c'est un peu marquant.
Violence. Alors là encore, les musiques étaient composées sur place. Hein, vous n'y avez pas touché à votre retour. Une fois rentré en France, à Paris, vous n'avez plus retouché à ces musiques. Tout a été composé là-bas. En revanche, les titres, je crois que c'est une fois rentré que vous les avez choisis. Pourquoi ce mot de violence? C'est vraiment ce que ça vous a inspiré, ce mode de vie?
Oui, c'est le morceau le plus dur de l'album. Sur des projets comme ça, j'essaye de vraiment de me fixer aucune ligne directrice artistique. Ça part dans des sonorités comme ça assez dures. Il y a d'autres morceaux très contemplatifs, très doux. Je laisse toutes les portes ouvertes au maximum. Et puis l'idée de rien retoucher, c'est aussi se rajouter une contrainte dans ce type de démarche. Et puis ça me semblait complètement inconcevable de partir faire de la musique dans des zones comme ça aussi reculées, et puis de se permettre dans son confort parisien, studio moderne, de retoucher tout. J'aime cette idée aussi de musique un peu imparfaite, brute. Ouais, c'est une manière de rapporter un témoignage d'un instant, un témoignage très subjectif. Voilà.
Alors pour avoir un aperçu plus complet, eh bien il reste cet album, hein, -22.7. Pourquoi -22.7 c'est une température. Hein.
C'est une température, c'est pour ça que je vous ai repris tout à l'heure, parce que 22.7, ça symbolise tout autre chose.
Ce sera pour les vacances.
Ce sera peut-être pour un projet
tempéré,
à venir. Ouais. Mais -22.7, voilà, c'est la température la plus basse que j'ai eue lors de ce périple, en plein hiver groenlandais. C'est donc une température assez douce. Et c'est ma manière d'aborder un peu le réchauffement climatique sur ce projet qui n'était pas, c'était pas un sujet de recherche. Pour moi.
Est-ce qu'il y aura d'autres voyages, molécules, d'autres ambiances?
Et oui, il y aura d'autres voyages, d'autres ambiances. J'ai pas mal d'idées. Je suis en train de mettre en place des choses. Je parle aussi d'une expérience en réalité virtuelle que je réalise avec Yann Kounen sur ce projet -22.7, qui est un projet d'immersion et qui aborde vraiment ces termes d'écoute, de silence et d'aller-retour entre la réalité, son monde intérieur. Et c'est un projet très important qui sera un peu le climax de toute cette expérience que je viens de faire.
On a quelques ambiances à vous proposer, par exemple celle-ci. Cascade, torrent, ça pourrait vous inspirer?
Ah, c'est pas mal, oui.
Ouais, ça peut être une idée. Sinon, on a ça aussi. Forêt tropicale.
Ouais, ça me parle.
Ça pourrait être une prochaine destination. Allez, une dernière. Là, on se projette dans le désert, en pleine tempête de sable.
Pas mal.
Bon, ça fait au moins trois prochains.
Il y a l'embarras du choix. Je vous remercie.
Allez, il y a encore des inspirations pour aller puiser dans des univers sonores de notre planète. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous allons nous intéresser au voyage que peuvent faire les mots en passant d'une langue à l'autre. Le linguiste Jean Pruvot va nous raconter l'histoire de ces mots baladeurs qui ont migré du français à l'anglais et vice versa.
Tes doigts sur ma peau. Poisson dans l'eau, qui ne rêve qu'à s'unir pour survivre à tes lèvres, à moitié chaude, promettent des choses grandioses. Je rêve encore d'une autre vie. Je rêve encore d'une autre. Cherchez loin. tu la cherchais loin. Et pourtant tu l'as trouvé toi. Et pourtant tu l'as cherché.
C'était Une autre vie d'Iliona sur France Inter et merci à Muriel Pérez pour la programmation musicale.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
I don't understand.
You come with me to pick up Peter.
No, you come with me to pick up Macintosh.
No, you.
I beg your pardon.
And if you don't come, Ah merde alors, comment on dit
comment
ça?
Comment ça merde alors? But alors you are French?
You are not English?
Non.
Bourville et de Funès dans la grande vadrouille, bien sûr. Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour Daniel.
Vous êtes linguiste et vous signez aux éditions Talendier la story de la langue française, ce que le français doit à l'anglais et vice-versa. En vous lisant, on se rend compte à quel point les mots sont de grands voyageurs. Ils passent d'une langue à l'autre au gré des déplacements des locuteurs. Et le voyage est vraiment au cœur de votre ouvrage à tel point que vous commencez par un souvenir d'enfance sur les genoux de votre grand-mère, les yeux rivés sur les bateaux du port de Boulogne-sur-Mer. L'endroit parfait pour s'intéresser aux pérégrinations du mot mal. Je parle bien du coffre hein, dans lequel on peut ranger des affaires. Ce mot mal, comme l'objet qu'il désigne, a voyagé entre la France et la Grande-Bretagne.
Eh bien oui, alors c'est une story hein, qui s'écrivait IE, puisque c'était un mot français au départ.
Story est un mot français.
Voilà, très peu de temps, mais et qui est passé en anglais. Donc c'est le premier voyage. Et effectivement, quand avec ma grand-mère, on regardait les bateaux arriver, on disait « la malle est arrivée ». Ça a toujours été dit, et c'est encore dans le dictionnaire de l'Académie française aujourd'hui. Et en fait, c'est un mot qui a voyagé, puisqu'il vient du néerlandais, du francique, « malle », où il désignait une sacoche. Il passe en français. Eh bien, il devient un sac, puis une espèce de coffre un peu plus massif, et on le met sur le bateau, mais pas vide, avec du courrier. Et c'est comme ça qu'on parlait de la malle poste. Alors, la malle voyage, c'est devenu le nom du bateau, qui est donc perduré jusqu'à aujourd'hui encore. Et puis, en Angleterre, eh bien, ça va devenir mail. D'abord le sac avec le courrier, puis tout simplement le courrier. Mm-hmm. Et donc, le mot mail, d'une certaine façon, ouais. Est d'origine française.
C'est ça, nous leur avons envoyé des mails, ils nous ont renvoyé les emails.
Oui, hein, vous voilà. Écoutez. Alors bon, moi je préfère qu'on dise les courriels maintenant et qu'on laisse la malle poste, la malle des Indes avec ce mot-là. Québécois disaient maler quelque chose aussi, m'envoyer quelque chose.
L'anglais est une langue d'origine germanique, le français une langue d'origine romane, et pourtant le vocabulaire anglais, je l'ai découvert en vous lisant, ça m'a surpris, est composé à 65% de mots d'origine française ou latine. Ça paraît énorme.
Oui, c'est énorme. Alors évidemment, la prononciation a été très différente. Elle a changé, mais sur un dictionnaire de 60 000 mots, il y a à peu près 65%. Alors ces mots sont de nature variée. C'est venu avec, en 1066, Guillaume le Conquérant, qui était un descendant des Normands, des Vikings, et qui, donc, en devenant roi d'Angleterre, embarque avec lui énormément bien de nobles, mais aussi d'artisans normands. Alors, normands, et donc parlant le français, l'anglo-normand, mais qui était devenu le français. Alors ça nous donne des mots qui sont tout à fait normaux pour nous. Le sœur... ces sires. Alors, à la prononciation près, baron, baron, tous ces mots-là, évidemment, abbot pour abbé, sont cardinal, il faudrait le prononcer à l'anglaise. Et donc, il y en a énormément. Saint ou saint, saint, oui, c'est déjà français.
Finalement, l'anglais, hein, c'est ce que vous dites, peut être considéré comme un musée du français d'hier.
Alors oui, ça c'est assez merveilleux parce qu'il y a un certain nombre de mots qui nous paraissent tout à fait anglais. Petticoat, par exemple, qui veut dire jupon, un mot délicieux peut-être, mais c'est la petite côte, en fait. Mm-hmm. Quand vous avez poultry, le poulailler ou la volaille, c'est la pouletterie. Pantry, c'est la panetterie. Mm-hmm. Et donc, on a des mots comme ça, comme very. Alors, very, ouais, qui fait très anglais. Si on veut, ouais, faire anglais, on dit very. Ouais. Mais c'est le mot vrai, verrait, verrément. Hein. Donc, on a là, effectivement, un musée. Ouais. Musée aussi de la prononciation, d'ailleurs.
Ouais. On le voit avec... Towel, avec tower pour tour, avec flower pour fleur.
Oui, alors les exemples sont excellents parce que on voit bien qu'on écrit fleur, on écrit tour, et c'est parce qu'on les prononçait naguère, ces, ouais, mots-là. Donc c'est vraiment un musée, effectivement.
C'est ce qui a fait dire à Alexandre Dumas en 1845, dans 20 ans après, il fait dire plutôt à D'Artagnan que l'anglais n'est que du français mal prononcé.
Oui, alors je suis assez content d'avoir récupéré cette citation parce que tout le monde l'attribue à Clémenceau. Ouais. Et quand j'ai demandé à les grands spécialistes de Clémenceau où il l'avait dit, ils ne savaient pas. Or en fait, très probablement Clémenceau est un amateur de Dumas, il a cité Dumas, mais c'est vraiment Alexandre Dumas qui a dit ça. Effectivement, l'anglais mal prononcé.
Ouais. Alors, certains mots ont fait l'aller, hein, l'aller simple de la France à l'Angleterre. Et puis, il y a ces mots qui ont fait des allers-retours entre le français et l'anglais, qui nous sont revenus méconnaissables, en quelque sorte.
Alors, exactement. Alors, un des tout premiers, peut-être, c'est le budget. Parce que c'était bouge, voulait dire sac aussi. On est décidément dans les sacs, comme la malle. Ouais. Bougette, le petit sac dans lequel on mettait de l'argent. Cette bougette passe en Angleterre, se transforme en budget. Et puis, il y a un symbole, to open the budget. C'était pour le chancelier ouvrir les problèmes financiers. Et à ce moment-là, ça nous revient au XVIIIe siècle comme budget. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Il y a le tunnel, c'est la tonnelle. Ouais. Le ticket, c'est l'étiquette. Et scout, il n'y a pas longtemps, il y avait la journée mondiale des scouts. C'est les scouts et c'est les boy scouts, c'était l'équivalent des guetteurs au départ. Ouais. Hein, et donc voilà des mots qui nous reviennent avec plaisir.
C'est aussi le cas pour toast, pour bacon. Pour bar aussi, hein, vous expliquez dans l'ancien français, bar c'est un tonneau.
Oui, c'est ça. Alors on a un mot très courant, c'est le sport. Hein.
Ouais.
Sport, c'était le désport, qui voulait dire se déporter, c'est-à-dire avoir un loisir. Le désport devient disport, puis sport, et ça nous revient avec le sport. Ouais. Et beaucoup de mots anglais, parce qu'évidemment, il y a quand même de véritables mots anglais venant donc de la langue germanique ou du vieil anglais,
et oui,
qui nous sont arrivés.
C'est ça, alors à partir du XVIIIe siècle, on a l'impression que les choses s'inversent, alors que le français avait beaucoup nourri la langue française, la tendance s'inverse, ce sont des mots anglais pur jus, on pourrait dire, qui s'invite dans notre langue. Qu'est-ce qui explique ce revirement ?
Alors, tout simplement, c'est l'avance qu'avaient les Anglais, d'abord sur un plan politique, puisque ils étaient dans un régime, une monarchie parlementaire, qui avait beaucoup séduit les philosophes. Donc nos quatre grands philosophes, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, sont séduits par le système anglais. Alors, évidemment, ça nous donne des mots comme le club, comme voter, même parlement, même si c'est un mot français, mais qui reprend une autre souche. Ouais. Et puis après, il va y avoir l'avance technique.
Ouais, la révolution industrielle.
Voilà, la révolution industrielle, ils en ont une d'avance avec, ouais, la machine à vapeur. Et donc, ça va nous donner toute une série de mots. Le tunnel, bah, en fait partie.
Ouais. Les
mais
wagons.
On va voir wagon, tender, le tender, hein, les rails. On aura aussi même le pétrole, d'ailleurs, pipeline.
Ouais. Et puis, les deux guerres mondiales, là aussi, nous apportent leur nom de mots anglais.
Oui, alors ça commence évidemment par des mots comme le tank, réservoir, comme la Jeep, etc. Et puis tout simplement après, il y a eu la fascination pour l'anglais qui fait qu'on a tous été, ma génération, à mettre des pièces dans le jukebox,
oui,
à jouer au babyfoot, au
regarder flipper, des westerns,
à regarder des westerns et faire du bowling.
En hein, écoutant bon, du rock'n'roll.
Voilà.
Aujourd'hui, les anglicismes sont partout, y compris sur notre antenne. Certains auditeurs nous font remarquer avec agacement l'emploi de mots tels que playlist, live,
eh ben, ils ont raison,
et autres featuring. Alors, ils ont raison, c'est-à-dire que ça s'accélère, ça s'intensifie.
Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, comme toujours, il y a une part de la population, c'est souvent dans l'entreprise en ce moment, et souvent des jeunes, mais c'est normal, ils ont envie de faire leur trou parfois avec des mots, mais ils ont tort à long terme, qui en font une sorte de snobisme. Alors c'est vrai que quand on parle du farm coaching qui va améliorer mes soft skills, je reviens à ma grand-mère et je dis, mais qu'aurait compris ma grand-mère? Et moi-même, je comprends pas grand-chose. Ouais. Quand on vous parle du team leader pour améliorer le greenwashing, ouais. Bon, et même la playlist, bon, j'ai mis un moment à comprendre ce que voulait dire la playlist. Pourtant, j'aime bien l'anglais, je le connais. Donc là, il y a un peu un snobisme qui peut être agaçant. Upgrader le network, bon, ouais, on peut peut-être trouver autre chose.
Ce sont des effets de mode où, en fait, ça a toujours eu lieu. Et puis ces mots, de la même manière que le français a irrigué l'anglais, eh bien, l'anglais va s'intégrer dans notre langue.
Alors, il y a toujours eu un snobisme de ce type. Et c'est vrai qu'on parlait, il n'y a pas si longtemps, d'un drink. Heureusement, c'est parti. Des teens, bon, c'est parti. Et donc...
Le drink, ça revient un peu, je l'entends parfois.
Ah bon,
alors
donc,
que peut-être
bon,
entouré
alors, la victoire n'est pas totale. Mais bon, dans ce snobisme, je pense que souvent, ça fait un peu comme les précieux ridicules. Ils se ridiculisent eux-mêmes quand ils utilisent tant de mots anglais.
Merci Jean Pruvot. Votre livre passionnant s'intitule « La story de la langue française, ce que le français doit à l'anglais » et vice-versa aux éditions Talendier. Un grand merci à vous. Pour réécouter cette émission, il y a le podcast, bien sûr, ou je devrais dire la balado-diffusion, peut-être. Vous êtes particulièrement nombreux ces derniers temps à nous laisser des messages sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou sur franceinter.fr. Un grand merci à vous. Nous lisons avec beaucoup d'intérêt et de plaisir tous ces messages. À demain pour de nouvelles aventures.